Voici donc une nouvelle semaine qui s'ouvre avec Jérémie en première lecture et dans ce long texte de Jérémie, nous pouvons prendre la mesure de la prophétie. Alors ça, on peut trouver ça un peu lointain. Sauf que par notre baptême, nous sommes aussi prophètes. Et ça signifie que par notre vie, nous avons quelque chose à prophétiser. Plus concrètement, ici, nous ne sommes pas tous envoyés par Dieu pour dire un message. Et de fait, il y a ceux qui sont envoyés et ceux qui ne sont pas envoyés. Jérémie est envoyé, Anania, dont il est question dans la lecture, lui, il n'est pas envoyé. Et comment fait-on la différence? Alors, je vais oser un peu un parallèle. On a un autre Ananie dans l'écriture. Vous savez peut-être, c'est au moment des Actes des Apôtres, au moment de la conversion de Paul. Paul arrive à Damas, aveugle, et là, il y a un disciple de Jésus qui s'appelle Ananie, qui reçoit une vision de Dieu, qui lui dit, va dans la rue droite, tu trouveras Paul, tu trouveras Saul, il s'appelle Saul encore à ce moment-là, impose-lui les mains, etc. Puis il y a un dialogue entre Dieu et Ananie, c'est-à-dire entre Jésus et Ananie, bon, Jésus est Dieu, mais entre Jésus et Ananie en l'espèce, et c'est assez impressionnant. Donc Ananie est envoyé, et Ananie se plie après avoir dit, tu sais, il faut faire gaffe quand même, hein, Saul, c'est pas un type bien. Et Dieu lui dit, oui, t'inquiète pas, je suis un peu au courant. Et Ananie y va. Et là, par contre, cet Ananie, confrère de Jérémie, lui, eh bien, il croit être envoyé parce qu'il désire ce qu'il veut dire. Il se sent poussé à, mais il n'a pas reçu de révélation intérieure, il n'a pas reçu de prophétie de Dieu. Alors, quel est le critère? Le critère, je crois que c'est toujours le même, c'est le discernement. Est-ce que vraiment Dieu m'a donné cette parole à dire, oui ou non? Ou est-ce que c'est mon orgueil qui me fait dire quelque chose? Donc c'est toujours une difficulté, sans aller à des prophéties extraordinaires. Hein. Voilà, est-ce que je suis dans une assemblée et puis on demande un avis sur je ne sais quoi, et tout à coup j'ai cette idée qui manifestement n'est pas simplement liée à telle ou telle compétence qu'on pourrait avoir, mais qui vient de plus profond. Bon, une assemblée ecclésiastique par exemple, ou ecclésiale, ou le synode, ou voilà, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de Dieu? Oui. Donc là il y a tout un discernement. Et ce discernement ne peut se faire que dans une union à Dieu, dans la prière, dans la contemplation, dans la remise en cause. Voilà. Et quand Dieu veut en général que quelqu'un le dise, il sait trouver les moyens. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc ça, c'est la distinction vrai-faux prophète. Et évidemment, la prophétie peut être vraie et ne pas s'accomplir aussi. Hein, parce que le peuple se convertit. On a le cas avec Jonas, qui dit encore 40 jours et Ninive sera détruite, et puis regarde ce qui va se passer, et en fait ce qui se passe c'est que Ninive n'est pas détruite, parce que les gens ont réagi, donc voilà. La prophétie ça reste quand même très ouvert. Et puis dans l'évangile on a donc la suite du meurtre, de l'assassinat de Jean-Baptiste, et je crois pouvoir lire que Jésus est bouleversé. On nous dit il a pris la mort de Jean-Baptiste et il part en barque pour un endroit désert, à l'écart. Jésus a son cousin très proche par le sang, très proche par la mission. Il a une mission assez extraordinaire quand même, Jean-Baptiste, et il vient d'être assassiné sauvagement. ça ne peut pas ne pas impacter Jésus. Une mort aussi violente, imaginez que vous avez appris que votre cousin Germain, votre neveu qui est prêtre, vient de se faire égorger dans une église. Il se passe quoi? Voilà. C'est déjà arrivé, hein, entre parenthèses. Hein. Bon. Donc voilà, Jésus est bouleversé et il cherche un lieu en silence. Et manifestement, enfin moi en tout cas, j'imagine que la foule aussi est complètement perdue. Il vit une foule de gens, il fut saisi de pitié envers eux. Voilà, ils sont perdus. Parce que eux aussi, ils ont perdu Jean-Baptiste en fait. Hein. Jean-Baptiste, c'était celui qui donnait espoir au peuple. Il y en a enfin un qui ose dire les choses qui sont... voilà. Il ne parle pas comme les pharisiens, c'est un prophète. Bon, voilà. Et alors, ce qui est tout à fait frappant, donc, c'est d'abord de voir comment Jésus a compassion de cette foule. Il ne reste pas sur sa souffrance. Lui qui a perdu son cousin violemment a encore de la place pour ressentir la souffrance des autres. Évidemment, plus qu'un exemple, mais voilà comment Jésus nous dit garder de la place pour la souffrance des autres. Si tu te replies sur ta souffrance, tu n'es plus là pour les autres et tu n'es pas fait pour vivre seul, comme le dit le début de la Genèse. Donc ça c'est important. Alors ça nous rejoint extrêmement profondément. Parce que Jésus a donc expérimenté ce que c'est que d'avoir un proche qui meurt violemment, injustement. Et si ça nous arrive à nous, sans parler peut-être de mort physique, mais ça peut être une destruction, quelqu'un qui est traîné dans la boue, qui est licencié, injurié, que sais-je, l'idée qui me vient là, c'était ce député dont j'ai oublié le nom, qui avait fait remarquer à une époque qu'un mariage c'est un homme et une femme, et qui s'est retrouvé au tribunal accusé par une association LGBT et qui a dû payer, se rétracter, enfin, ben c'est hallucinant quand même. Hein. Bon, il n'est pas traîné dans la boue dans le sens où il n'a peut-être pas perdu sa profession, mais ben voilà, enfin, ça va très très loin quand même. Donc, nous avons cette compassion de Jésus, de cette foule, et Jésus, c'est extraordinaire ce que fait Jésus. C'est extraordinaire. Jésus dit aux apôtres, faites-le, écoutez. Alors, les apôtres, ils sont interdits. Hein. Ils disent, attends, nous ? Ouais, allez-y. Et alors, bon, ils le prennent au sérieux, ils disent, mais attends, t'as vu ce qu'on a? On a récupéré un peu de pain, un peu de poisson, on va faire quoi avec ça? Et je trouve ça extraordinaire parce que, en fait, Jésus se suffit de ce qu'on n'ait rien à donner. Il veut ce rien. Fut-on apôtre? Et aujourd'hui, l'Église est pauvre. À bien des points de vue, puisque nous avons été traînés très bas, nous sommes honteux devant les abus divers et variés de membres de notre Église. On est salis par les nôtres, ce qui ne peut pas ne pas nous impacter. Enfin, on est salis, oui, nous et l'Église, et donc le corps du Christ, et Jésus nous dit, donnez ce que vous avez. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a 12 000 baptêmes. Et Jésus a pris le peu qu'on avait, et voilà, et c'est pas les plans pastoraux qu'on fait les conversions, quoi. Alors, c'est pas très gentil, je suis pas un séculier, j'ai rien contre les plans pastoraux. C'est juste que, voilà, quand la Vierge Marie, elle apparaît à Lourdes, le plan pastoral de l'évêque, elle l'a pas consulté, hein. Ben là, c'est pareil, voyez. C'est au moment où l'Église était extrêmement pauvre qu'il se passe quelque chose. Donc notre pauvreté, il ne faut pas en avoir peur. Il faut plutôt l'offrir à Jésus. Et donc une Église pauvre, évidemment, ça vous rappelle les paroles de notre cher pape François. Je ne sais pas s'il est martyrisé, lui, mais en tout cas, il en reçoit. Hein. Et voilà, et savoir que Jésus est bien là, et que Jésus agit pourvu que nous lui donnions notre pauvreté, au lieu de nous dire, ah ben non, on n'a vraiment pas ce qu'il faut. On n'a rien, c'est exactement ce qu'il faut pour que Jésus puisse agir. Voilà. Donc réjouissons-nous de notre Église pauvre, parce qu'elle se rend beaucoup plus apte aux transformations de Jésus. Alors ça vaut évidemment pour chacun de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut, oh c'est super, je fais plein de péchés, non, on est bien d'accord. Mais voilà, souvenez-vous de la parole de la petite Thérèse, ce que Jésus aime en moi, c'est que j'aime ma misère. Elle n'a pas dit j'aime mes péchés, elle a dit j'aime ma misère. Je suis contente de pas y arriver, d'avoir rien du tout, d'être pauvre. Pourquoi ? Parce que je peux rencontrer Jésus. La pauvreté, c'est la porte d'entrée du dialogue avec Jésus. La pauvreté n'est pas prétentieuse. Regardez les pauvres dans la rue. Le vrai pauvre, hein ? Ceux qui ont tout perdu. Ils ont une manière de regarder, une manière d'être heureux. Je me souviens un jour, au monastère, il y avait un passant qui était là, et puis il avait passé 3 jours, donc un garçon qui faisait la route, et puis en partant, il me dit, tiens, je voudrais te voir pour te dire au revoir. Alors on se voit, et puis il laisse son sac à dos à l'entrée de la porterie, dehors. Et je lui dis, tu as pas peur que quelqu'un le prenne? Et il me regarde, il me dit, attends, si quelqu'un le prend, c'est qu'il en a besoin. Hein, je dois dire que j'ai pris une belle leçon, je sais pas si je l'ai assimilé encore. Mais voilà, quoi, il a rien et c'est pas grave. Voilà, il est pauvre et Dieu peut faire. Et il a voulu qu'on prie ensemble après. Bon, c'est extraordinaire, je sais pas quel ange de Dieu j'ai reçu, mais voilà, un homme tout simple. Donc voilà, que notre pauvreté soit notre espérance. Parce que nous savons que Jésus peut agir à ce moment-là. En fait, là, le propre de toutes les guérisons dans l'Évangile, c'est la détresse. C'est la détresse. Ceux qui ne sont pas en détresse, ils sont inaptes à être guéris. Les pharisiens, ils ne sont pas en détresse. Ben, ils ne sont pas guéris. Vous mourrez dans votre péché. Bon, je ne dis pas que c'est... Je dis que c'est la réalité, il me semble. Eh bien, réjouissons-nous d'avoir reçu un tel sauveur. Amen.